Alors, on peut dire que l'impôt fait la même chose, cela dit. Hein. Mais j'achève d'abord sur la cotisation quand même, à propos de la maladie. Lorsque dans les années 60, on augmente le taux de cotisation maladie pour financer les CHU et le conventionnement médical, on ne pique rien sur rien, pas plus que Croizat n'avait piqué quoi que ce soit pour augmenter le taux de sécurité sociale en 46. On augmente le PIB, on augmente les prix des marchandises, on augmente la monnaie en circulation, et on augmente le PIB en reconnaissant une valeur économique au travail des soignants, qui jusqu'ici n'avait pas de valeur économique. C'était une activité utile, mais non productive. Nous sommes dans la convention, encore une fois, toujours. Hein. Ce qui est défini comme productif, c'est une convention sociale qui dépend des rapports sociaux. Le capital, en permanence, dit, n'est productif que le travail qui met en valeur du capital. En dehors de ça, ce n'est pas productif, c'est une dépense. Donc, en permanence, le capital va dire, la sécu, c'est une dépense. Les allocations familiales, c'est une dépense. La santé, c'est une dépense. Jamais il ne va admettre que c'est une production, parce que s'il l'admettait, ce serait admettre que l'on peut produire en dehors de ce qui assure sa domination sociale, c'est-à-dire en dehors de la propriété lucrative, du marché du travail et de la valeur travail. Toute la question est de savoir comment les dominés se libèrent de cette domination du capital. Ben, ils ne peuvent pas s'en dominer, s'en libérer s'ils pensent, eux aussi, que la sécu c'est une dépense. Que la cotisation, c'est une ponction qui va à des activités utiles mais non productives. Que les parents, c'est utile. Il faut être solidaire des parents, mais ce n'est pas productif. Que les soignants, c'est utile, mais pas productif. Tout ça, c'est de la dépense sociale. Si nous-mêmes, nous y croyons, c'est ennuyeux, hein, parce que nous n'avons aucun outil pour nous battre, hein, puisque nous pensons qu'il y a une éternité de la valeur capitaliste. Que tout ce qu'on peut faire, c'est piquer. Piquer une part. Piquer une part pour du non-productif. Piquer une part pour du hors-travail. Faire deux parts d'entrevue, celle qui est vouée à alimenter du capital et puis celle qui en serait libérée parce que ce serait hors-travail. C'est pas très réjouissant comme perspective hein, d'être voué indéfiniment à la définition capitaliste du travail quand on sait comment cette définition nous mène dans le mur complètement hein, du point de vue écologique, etc. Donc nous libérer de la pratique capitaliste du travail, ça n'est possible que si nous nous appuyons sur l'existant, et cet existant il est là. C'est les cotisations sociales pour autant qu'elles financent du salaire. Alors, c'est tout à fait vrai pour la maladie. La maladie reconnaît à travers le salaire des soignants l'activité ou les remboursements la prise en charge des consultations, etc. Reconnaît le travail des soignants. Pour les allocations familiales, c'est déjà plus atténué parce que l'indexation sur les salaires a été supprimée progressivement dans les années 50. Finalement, le lien au salaire a été déjà très largement détruit par Rocard avec la CSG. Hein, en disant que non, les allocations, c'est un droit de l'enfant qui doit relever de l'impôt. Mais c'est un contresens absolu sur notre histoire. Hein. Les allocations familiales, c'est la reconnaissance du travail des parents. Ce n'est pas du tout un droit de l'enfant. Maintenant, on compare de manière générale la cotisation à l'impôt, l'impôt, sur le fond, c'est la même chose que la cotisation. Je parle de l'impôt qui paye les fonctionnaires. Hein. Je ne parle pas de l'impôt qui est effectivement une dépense publique parce qu'on estime que c'est un acheteur public qui doit acheter, par exemple, les armes. C'est à l'État d'acheter les armes qui sont produites dans la sphère capitaliste, d'accord ? Mais ça ne peut pas être des acheteurs privés. C'est pour cela qu'on va socialiser, hein, une capacité d'achat à travers une cotisation ou un impôt. Il y a aussi partiellement la cotisation maladie, c'est aussi partiellement une dépense sociale au sens où c'est l'hôpital qui va acheter les médicaments qu'il utilise, par exemple. Hein, ce n'est pas un achat privé. Donc là, ce n'est pas une production alternative. On achète à des boîtes capitalistes des médicaments. C'est simplement un acheteur collectif. Mais c'est très minoritaire dans la cotisation. C'est très peu de choses dans les cotisations sociales, l'aspect achat collectif. C'est un peu plus important dans l'impôt, mais ça reste minoritaire. L'essentiel de l'impôt paye le salaire des fonctionnaires. Or, le salaire des fonctionnaires a la même signification que le salaire des soignants. Les fonctionnaires travaillent. Les fonctionnaires ne sont pas des personnes utiles, mais non productives. Sinon, il faudrait expliquer en quoi, une comptable qui gère l'urbanisme d'une municipalité en tant que fonctionnaire dépenserait et que la même qui gérerait l'urbanisme de la municipalité mais en concession à Veolia produirait. Les deux produisent, hein, mais de façon antagonique. Hein. L'une met en valeur du capital, l'autre non. L'une obéit à la valeur travail, l'autre non. L'une est sur un marché du travail, l'autre non. Elle est payée pour son grade. Donc l'impôt, c'est l'affirmation aussi que l'on travaille sans employeur et sans actionnaire et sans valeur travail. Donc c'est totalement subversif du cœur de la domination capitaliste sur nos vies, c'est-à-dire le fait que le capital décide ce qu'est travail, décide qui travaille, décide quel est l'objet du travail, décide la localisation du travail, décide ce qui est et ce qui n'est pas travail. Ça, nous n'avons aucune maîtrise là-dessus. Sauf si nous relevons de l'impôt et de la cotisation sociale. Où là, nous allons pouvoir avoir, à travers l'impôt, une maîtrise collective de ce que c'est que le travail d'enseigner. Ce n'est pas le capital qui va en décider. Et des personnels qui ne vont pas mettre en valeur de capitaux. Donc l'impôt, il a exactement la même signification que la cotisation, de ce point de vue-là. Alors pourquoi, s'il y a la même signification, pourquoi est-ce qu'il y a un tel acharnement des réformateurs à transformer la cotisation en CSG. Et pourquoi d'ailleurs une telle vulnérabilité des opposants à la réforme lorsqu'ils renoncent à revendiquer la hausse des cotisations et revendiquent de l'impôt pour financer ce qu'il a été jusqu'ici par la cotisation. Par exemple, demander qu'il y ait un impôt sur les revenus financiers des entreprises pour financer l'assurance vieillesse. Cet acharnement à remplacer la cotisation par l'impôt vient de ce que l'impôt, il est redistributif dans sa pratique. Alors attention, hein, dans sa réalité, l'impôt, en tant qu'il paye des fonctionnaires ou qu'il paye, des salariés d'associations qui se substituent au service public. On voit bien comment dans les collectivités territoriales, il y a de moins en moins de fonctionnaires et de plus en plus d'associatifs financés sur projet par les élus. Ce qui est une aberration invraisemblable. Enfin, bon, je ne suis pas là pour discuter de ça. Mais disons que dans les faits, toutes ces personnes-là produisent de la valeur qui est subversive du canon capitaliste de la valeur. Mais, et c'est là que qu'il y a un enjeu cognitif, parce que le conflit social, il est aussi dans les têtes, il n'est pas que dans les faits, plutôt ce qu'il y a dans les têtes, c'est un fait qui peut être tout à fait décisif. L'impôt, il est redistributif, c'est-à-dire qu'on commence par distribuer la valeur et ensuite, entre le salaire et le profit globalement, et ensuite on fait un impôt sur le profit et sur le salaire. Et alors, l'impôt sur le profit, c'est l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le patrimoine, des transactions, etc. L'impôt sur le salaire, c'est la TVA, c'est l'IRPP. Si bien que on a l'impression que l'impôt est une ponction, puisque la pratique de l'impôt, c'est que il vient corriger une distribution initiale. Et donc, ça nous laisse dans la tête l'impression que l'impôt est une ponction sur la production qui va à des gens qui ne produisent pas, puisqu'il faut les payer par une ponction. Si le salaire des fonctionnaires est ponctionné sur la sphère capitaliste, ça veut dire que les fonctionnaires ne produisent rien, qu'ils sont utiles, mais non productifs. Dans les faits, ça n'est pas le cas, mais la pratique même de l'impôt appelle cette interprétation. De la même façon que lorsque je paye un litre de lait avec de la TVA, j'ai l'impression que c'est moi qui produis la valeur correspondant à la TVA et que la TVA est prise sur mon travail. Ce qui veut donc dire que celui qui va être payé par la TVA ne fait rien. Si c'est moi qui le paye. L'impôt, il nous conduit immanquablement à penser que c'est nous qui avons produit l'impôt. Que c'est un truc qu'on nous pique. Et que ça va alimenter des gens dont... Alors, si on est à droite, on va contester l'utilité, mais si on est à gauche, on va pas contester l'utilité, globalement. Hein. Mais, OK, ils sont utiles, mais pas productifs. Si je pense que... lorsque je paye l'IRPP, c'est sur le produit de mon travail que l'IRPP est pris. Et j'ai toute raison de le penser, puisque l'IRPP est assis sur mon salaire. Ce que j'en conclus, inévitablement, c'est que les fonctionnaires ne sont pas productifs. Puisque pour qu'on puisse les payer, il faut qu'on pique sur ce que j'ai produit, moi. Ne confondons pas encore une fois l'impôt qui correspond à une dépense collective. Il y a une partie de mon impôt sous forme de TVA qui va servir à acheter à Dassault des armements. Bon, ça, c'était bien piqué sur mon travail, disons. Hein, d'accord. Il n'y a aucune production dans l'administration, d'accord, qui soit spécifique. L'administration, elle ne produit rien. Elle achète simplement des avions à Dassault. Donc, effectivement, l'achat d'avions à Dassault, l'impôt correspond à cet achat, il est pris sur mon travail. Parce qu'on estime que vaut mieux que cette consommation soit collective et non pas individuelle. Mais là, je parle de l'impôt, c'est la part majoritaire de l'impôt qui sert à payer l'activité des fonctionnaires. Si je pense que c'est moi qui paye les fonctionnaires, ça veut donc dire que les fonctionnaires ne produisent rien. Donc, l'impôt génère quasiment obligatoirement une adhésion au récit capitaliste du réel. Le récit capitaliste du réel, c'est on ne produit de valeur économique, on ne travaille que si on va sur un marché du travail pour valoriser le capital de propriétaires lucratifs en produisant des marchandises sous la dictature du temps, mesure de la valeur par le temps de travail. Ça, c'est la définition capitaliste du travail. Et l'impôt nous fait adhérer à cela. C'est pour ça que je milite vraiment ardemment pour la suppression de l'impôt, hein, parce que il nous embrouille entièrement. Il nous fait penser que nous travaillons pour l'État. Il y a même des guides, des ligues du contribuable, hein, qui ont calculé à partir de quel jour, du 16 août ou du 18 juin ou du 3 septembre ou du 4 mai, ils commencent à travailler pour eux. Hein, d'accord. Avant, ils ont travaillé pour l'État. Hein. Mais finalement, lorsque je pense que l'impôt est pris sur mon travail, c'est quand même ce que je pense, au bout du compte. Il n'y a pas que la littérature qu'on trouve dans les cabinets de médecins qui nous raconte ça. Non pas que les médecins croient à ce truc-là plus que les autres, hein, mais je ne sais pas pourquoi ils laissent leur cabinet encombré de conneries. Je ne sais pas pourquoi ils nous polluent avec leur saloperie. C'est tout ce que je leur reproche. Hein. Ils ne sont pas les. Bon, d'accord. Mais non, il arrive qu'on trouve le monde diplomatique dans un cabinet médical. Hein. Enfin, ou chez un dentiste, hein, d'accord. Mais c'est. Voilà, il y a Auto Plus. Bon, d'accord. Hein. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de ligues du contribuable qui lisent Auto Plus aussi. Hein. C'est un peu le même genre de lectorat, on va dire. Mais enfin, laissons tomber cette affaire qui n'a aucune importance. Excusez-moi. Lorsque nous pensons que l'impôt donc est pris sur notre travail, et on a toutes les raisons de le penser, vu son mode de calcul, nous sommes là dans l'aliénation complète, hein, c'est-à-dire que nous sommes empêchés, hein, par l'institution même de voir que le XXe siècle, c'est un siècle tout à fait remarquable, hein, qui a inventé une autre définition du travail. C'est la même à laquelle plein de gens autour de la décroissance ou je sais pas quoi courent. Hein. Ils courent vers un truc qui est déjà là. Hein. Ils voient pas, j'en viens à l'assurance vieillesse, ils ne voient pas que les retraités travaillent. Hein. Ils ne le voient pas. Ils ne voient pas que nous avons déjà, avec le salaire des retraités, contre le revenu différé et contre l'épargne, qui sont les deux formes antagoniques au salaire, nous sommes en train, mais c'est un rapport social tout à fait conflictuel, hein, actuellement, pourquoi nous sommes battus par les réformateurs depuis 20 ans ? Parce que nous pensons comme eux que les retraités ne travaillent pas et qu'il y a un problème démographique. Alors même que l'apparition de la cotisation vieillesse comme salaire et son affirmation contre l'épargne tout au long du 19e et du 20e siècle nous dit très exactement le contraire. Nous attribuons du salaire aux retraités parce que les retraités travaillent. Ou plus exactement, dès lors que nous attribuons du salaire aux retraités, l'activité des retraités est transformée en travail. Le travail est une convention sociale. La valeur économique est une convention sociale. La classe dirigeante, c'est la classe qui décide de la valeur économique. C'est ça, une classe dirigeante. C'est celle qui décide de la valeur économique. Elle a aussi d'autres caractéristiques culturelles, politiques, etc. Mais le fondement de son pouvoir, c'est qu'elle a la maîtrise de la valeur économique. Et donc, elle va s'acharner à naturaliser sa définition du travail, puisque c'est cette définition-là qui lui garantit sa domination. Elle va donc s'acharner à appeler non-travail tout ce qui ne relève pas de sa définition du travail. Et vous allez avoir des tas d'opposants au capital qui vont être pourtant totalement aliénés par cette définition et qui vont revendiquer le non-travail. Ils vont revendiquer le hors-travail. C'est-à-dire qu'ils vont assimiler le travail à sa définition capitaliste. Et dire que notre ambition, c'est de sortir du travail. C'est de limiter le temps de travail. Alors, sortir du travail, ça va être des radicaux, disons, qui veulent en finir avec la monnaie, la valeur, etc. D'accord ? Et limiter le temps de travail, ça va être ce dans quoi nous sommes embarqués, pour le pire, hein, puisque le capitalisme, c'est ce qui limite le temps de travail. Le cœur du capitalisme, c'est de limiter le temps de travail. C'est de réduire le temps de travail par unité produite. C'est d'être fondé sur une définition de la productivité par la baisse du temps. On va définir la productivité par la baisse du temps de travail, c'est-à-dire par l'élimination du travail vivant de l'activité de production. L'inflation du travail mort dans les machines ou dans les procédés. Les machines peuvent être virtuelles dans un monde de l'information, par exemple. Il ne faut pas se réjouir des gains de productivité, il faut les combattre, bien sûr. Dès lors que ces gains de productivité sont définis par une réduction du temps par unité produite. Enfin, nous savons le malheur auquel ça nous conduit, cette affaire. Or, ce que nous avons inventé, aussi bien avec l'impôt qu'avec la cotisation, encore une fois, hein, c'est le travail des retraités, le travail des chômeurs, le travail des soignants, le travail des parents, le travail des fonctionnaires, c'est-à-dire, alors selon des modalités très diverses, hein, mais du travail qui est libéré de la dictature du temps, qui est libéré de cette forme-là de productivité, parce qu'il y a d'autres formes de productivité qui sont le fait de mettre en œuvre le mieux possible la qualification des producteurs. Mais vous voyez que c'est antagonique de la mesure de la valeur par le temps. Or, nous le faisons déjà, nous mesurons la valeur produite par les fonctionnaires, qui représentent 150 milliards du PIB à peu près. Nous mesurons la valeur produite par les retraités, qui représentent 260 milliards du PIB. La valeur produite par les parents, 70 milliards à peu près. Mais vous voyez que c'est des conventions tout ça. Pourquoi 70 pour les parents et pas 700 et pas 200 et pas 50 ? Nous sommes dans la convention, bien sûr. Les chômeurs, à peu près autant, 70 milliards. Les soignants, 200 milliards, bon, c'est, tout ça est produit par des gens qui, en tout cas, jusqu'à la LOLF, la RGPP, la MAP et l'introduction, hélas, du New Public Management, n'obéissent pas à la dictature du temps. La mesure de la production de valeur économique, c'est pas le temps, c'est tout à fait autre chose, c'est la qualification du producteur. Mais nous le faisons encore pour les retraités. C'est pour ça qu'il y a été l'acharnement réformateur pour dire « Mais non, la retraite, ce n'est pas du salaire à vie. La retraite, c'est du revenu différé. C'est toute l'ambition du PS et de la CFDT. Le seul fondement juste de la retraite, c'est les cotisations de la carrière. Nous avons cotisé, nous avons droit. »